cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jobard le 5 mai 1988.
Dernière fois, vous vouliez nous parler du jeûne, mais vous nous avez laissés sur notre faim. Exprès, comme ça vous comprenez ce que c'est. C'est du vécu. Alors, pourquoi jeûne-t-on? Quel est le sens religieux du jeûne? A-t-il encore une raison d'être au niveau de l'éthique chrétienne? Et pourquoi? Quelle est sa valeur aux yeux de Dieu? C'est vrai, j'en ai parlé très peu. C'est quand même important en éthique religieuse. C'est vrai que le jeûne n'apparaît qu'en éthique religieuse. Il apparaît lié à l'esprit de virginité et à la vertu de tempérance, c'est évident. Alors je crois qu'il faut le considérer comme une ascèse. C'est une ascèse. Qu'est-ce que c'est qu'une ascèse? Une ascèse, c'est un effort volontaire. Acquérir une bonne volonté. C'est ça l'ascèse. Hein, il y a un petit côté stoïcien dans l'ascèse, mais voyez la différence. Le stoïcien considère l'ascèse comme ayant un but en soi. Nous considérons l'ascèse en éthique religieuse comme ordonner autre chose. Par exemple, quelqu'un a beaucoup de peine d'acquérir la vertu de tempérance. Dès qu'il est devant tel ou tel gâteau, il s'y précipite. Il en prend trois parts. Sans s'occuper si le voisin en aura ou n'en aura pas, vous voyez. Et puis, sans s'occuper s'il ne sera pas malade après ça. Sans s'occuper si c'est bien, prudentiellement. Je prends cet exemple-là, puisque c'est ordinairement de ce côté-là. Il y a quelqu'un qui est très chaud et très porté sur la bière. Et parce qu'il fait chaud, il en prend des quantités, puis après, la tête branle. Donc, tempérance, la vertu de tempérance, ça s'acquiert. La vertu de tempérance est une vertu humaine, d'éthique humaine. Mais en éthique religieuse, nous avons vu que la vertu de tempérance va se prolonger dans la vertu de chasteté, qui est autre chose, hein, et ça se tient. Et en esprit de virginité. Donc, pour que la vertu de chasteté et l'esprit de virginité puissent s'acquérir, il faut une volonté toujours plus forte. Et il faut que la finalité soit toujours plus présente. Et la finalité dans l'esprit de virginité, c'est l'offrande de tout nous-mêmes à Dieu en holocauste d'amour. C'est très difficile de s'offrir à Dieu si on est accroché à des biens matériels. L'aliment, la boisson. D'où l'importance du jeûne va être plus grande en vertu. Je crois que le jeûne est très difficile de s'expliquer uniquement en éthique humaine. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. On parle de la vertu de tempérance. Tandis que le jeûne, c'est un peu plus, vous voyez. Il faut un grand amour. C'est pas suffisant la vertu de tempérance pour jeûner. La vertu de tempérance, elle est commandée par la prudence. La prudence humaine, c'est-à-dire se dominer soi-même et faire que jamais, à cause de l'aliment, on va faire une injustice. Parce que quelquefois, la vertu, on n'a aucune tempérance, on voit à une vitrine d'un pâtissier quelque chose de magnifiquement séduisant, et on ne s'occupe plus à ce moment-là de la justice. On n'a pas le sou, ça n'a pas d'importance. Puisque c'est présenté pour tout le monde. Donc il n'y a pas à le mettre devant tout le monde, quoi. Alors, on peut très bien avoir une espèce de sainte ignorance à ce moment-là de la justice et dire c'est présenté à tout le monde. Il n'a pas qu'à présenter. Il tourne le dos. On le prend habilement. Vous voyez, on voit très bien que la tempérance peut, du moins le manque de tempérance peut conduire à des injustices. Le manque de tempérance peut conduire à des manques de charité. Ça, c'est sûr. On se précipite, peu importe les autres. Mais en éthique religieuse, c'est plus. Notre corps doit être offert à Dieu. Notre corps peut être hostie de louange. Que si on ne maîtrise pas l'appétit sensible, on risque d'être dans l'incapacité de s'offrir à Dieu en hostie de louange et d'amour. Et alors ceci, poussé à l'extrême, on voit le point de vue de l'esprit de virginité. Et donc toute affection déréglée du sensible nuit à l'esprit de virginité. Toute affection déréglée du sensible. Même au niveau de l'aliment. Et quand on sait cela, on le sait bien, et on sait qu'en nous, chacun d'entre nous, il y a les conséquences du péché originel, en éthique chrétienne. Et les conséquences du péché originel, c'est cette concupiscence de la chair qui est violente, qui se réveille quelquefois tardivement. Alors, on est vigilant et le jeûne est là pour anticiper ces reprises de l'appétit sensible. On jeûne pour offrir à Dieu librement, gratuitement, quelque chose qu'on pourrait très bien au niveau de la tempérance, de la vertu de tempérance, au niveau de la vertu de chasteté, qu'on pourrait très bien faire. Oui, on va plus loin. En raison d'un amour à l'égard de la volonté de Dieu, en raison de l'exigence de l'adoration. C'est la raison profonde de l'esprit du jeûne. On allège ses appétits sensibles. Et ce n'est pas pour garder la ligne. Non. Ça, c'est autre chose. C'est, au fond, un amour très caché de nous-mêmes et un esprit de séduction. Qui n'est pas bon. Qui n'est pas vrai. On veut à tout prix maigrir, alors que le médecin nous dit « Mais non, vous ne devez pas maigrir. » Il est normal que... Alors, ce désir à tout prix de maigrir, qui est, vous voyez, encore un attachement trop fort à soi. On dit qu'on ne s'aime pas, mais en réalité, on est trop attaché à soi. C'est très curieux. L'amour de soi, le véritable amour de soi, fait qu'on s'offre à Dieu en victime d'amour, parce que c'est la chose la plus belle. Et on veut que la victime soit bien pour Dieu. Puisque Dieu aime les graisses des agneaux. Donc on veut que ce soit bien offert à Dieu. On veut que notre intelligence soit bien pour être offerte à Dieu. On veut que tout ce qui est offert à Dieu soit bien. Alors, le véritable amour de soi implique, vous voyez, que nous faisons attention à notre santé dans tous les sens. Santé biologique, santé intellectuelle. On peut même faire de la philosophie par le souci d'offrir à Dieu une intelligence bien faite. Alors, le jeûne prend sa signification religieuse. Mais le jeûne n'est pas, vous voyez, le souci de maigrir. Le jeûne, c'est l'offrande à Dieu de ce qu'on pourrait très bien prendre en plus. Et on l'offre, par amour pour Dieu. Donc, c'est lié à l'adoration. C'est lié au souci d'une liberté intérieure pour aimer plus intérieurement. C'est l'esprit de virginité, vous voyez. Parce que l'esprit de virginité, c'est cela. La Vierge sage, c'est l'esprit de virginité. La Vierge folle, c'est justement un manque d'esprit de virginité. Alors on manque d'huile. On n'a pas pris de provision. Manquer d'huile, ça peut s'entendre de façon très diverse. Manquer d'huile, c'est quelquefois on n'a pas su assez garder sa santé pour l'offrir à Dieu. On n'a pas su être suffisamment prudent pour s'offrir à Dieu. Alors, on manque d'huile. On est vierge folle. La Vierge sage fait tout pour que l'offrande soit plus agréable à Dieu. Et on fait tout dans ce motif pour que ce soit plus agréable à Dieu. Et on a cette volonté ascétique, c'est une volonté ascétique, de s'offrir à Dieu par amour, mais en même temps modérément. Et celui qui voudrait jeûner sans s'occuper du tout de la charité fraternelle, par exemple, je jeûne d'une façon telle que je tombe malade. Je suis à ce moment-là dépendant des autres et j'inflige aux autres un surcroît de travail. Je n'ai pas le droit. Je jeûne d'une façon telle que je ne peux plus faire mon devoir d'État. Et donc c'est les autres qui le feront à ma place. C'est pas bien. Mais c'est très complexe. L'ascèse par rapport à nous-mêmes est toujours une chose très complexe. C'est lié à l'esprit de virginité. C'est lié à la vertu de chasteté. C'est lié à la vertu de tempérance. C'est lié à la charité fraternelle. Quand on appartient à une communauté, on fait attention que notre santé ne nous appartient plus. Et ça, c'est l'éthique religieuse. Hein. Parce que l'éthique religieuse peut très bien comprendre ce que c'est qu'une communauté de consacrés à Dieu. L'éthique chrétienne va apporter un motif nouveau à l'ascèse. Suivre l'agneau partout où il va, jusqu'à la croix. Alors ce sera à ce moment-là une imitation profonde de ce que Jésus a vécu sur la croix. Et ce sera un motif nouveau, propre à l'éthique chrétienne, d'offrir son corps en hostie d'amour lié à l'offrande de la croix. Sans vouloir imiter matériellement le Christ crucifié. À Port-Royal, il ne faut pas l'oublier, à Port-Royal, qui était justement un certain pharisaïsme chrétien. Pas au début, mais arrivé assez vite. Il voulait vivre comme des anges, comme on disait, avec un orgueil démoniaque. À Port-Royal, chez des religieuses, certaines demandaient d'être crucifiées, mais avec que leur enfonce des clous dans les mains et les pieds pour imiter plus Jésus. Et la 16, elle est jusque-là. hebdomadier, cette semaine. Il sera crucifié devant toute la communauté, ce qui portera la souffrance du Christ pour toute la journée, pour toute la communauté. Et 16. Et on verra celui qui est capable de souffrir ça de façon ascétique. Ça a été jusque-là, hein. Faut pas l'oublier. Et le démon peut arriver par l'orgueil et s'infiltrer jusque-là. Alors le motif n'est plus du tout l'amour, c'est être modèle, être cause exemplaire pour les autres. En se servant de la croix du Christ pour être cause exemplaire. Là, c'est plus le Christ qui est premier, c'est nous qui est premier. C'est très subtil. Hein. Je vous ai dit une fois, ça m'a été raconté, cette chose-là. Une religieuse, toutes les semaines, vivait le mystère de l'agonie du Christ. Extérieurement, sueur de sang. Et le sang sortait des veines bouillant. On mettait de la ouate et ça brûlait la ouate. Donc ça semblait extérieurement quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui vivait avec une très grande intensité la croix du Christ et l'agonie de Jésus. On en a appelé à Rome pour savoir si c'était authentique ou pas authentique. C'est celui, le visiteur, qui m'a raconté ça. Il m'a dit que c'était un spectacle digne de Port-Royal. Assez extraordinaire. Et humainement très très prenant. Le visiteur, pour discerner si c'était de Dieu ou pas de Dieu, l'épreuve de l'obéissance, toujours. Je lui ai demandé tel ou tel acte d'obéissance, je ne sais plus c'était quoi, qui allait un peu en sens inverse de la psychologie de la personne. Parce que le démon est un psychologue extraordinairement fin. Jamais l'oublier. Donc il se sert de la psychologie dans le sens de la psychologie de chacun, en poussant jusqu'au bout. Alors là, il a demandé un petit discernement, puis il a vu qu'il n'y a pas d'obéissance. Alors il lui a demandé un ordre de ne plus se mettre dans cet état-là. Elle n'a pas voulu. Tout le monde a vu que c'était du démon. Et comme c'est subtil. Hein. Et quelquefois, c'est de Dieu et que la supérieure peut se tromper. Il y a un autre exemple que j'ai déjà raconté. C'est à Mulhouse, hein, chez les Dominicaines. Les deux, c'est chez les Dominicaines, du reste. C'est deux cas. C'est comme ça que j'étais au courant. À Mulhouse, il y a des Dominicaines cloîtrées. C'était au XVIe siècle. Une religieuse qui, chaque fois qu'elle passait dans le couloir, il y avait un petit crucifix. Elle tombait en extase. Alors, évidemment, les religieuses qui étaient... C'est assez gênant, tu vois, quand on est en communauté. Ça arrête. Alors, on l'a dit à la supérieure, évidemment, on voit tout de suite. La supérieure a interdit à la religieuse de passer par là en disant « Il y a le cloître, vous pouvez passer autre part ». Pour ne pas plus passer devant ce petit crucifix qui, chaque fois qu'elle le regardait, elle entrait en extase. Alors, est-ce que c'était de l'ordre esthétique ou de l'ordre divin? Et la supérieure était quand même un petit peu gênée de savoir est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou est-ce que j'ai pas bien fait de ça. Visite canonique du père provincial avec un autre père qui l'accompagnait. La mère prieure dit et raconte le fait. Il dit au père provincial, je ne sais pas si j'ai bien fait, dites-moi. J'ai fait ça en conscience parce qu'il me semblait un désordre au point de vue de l'ordre communautaire. Est-ce que l'ordre communautaire doit passer avant ce point de vue de l'extase? Vous comprenez très bien, c'est un problème de fort externe, hein, vous voyez bien. Vous voyez un religieux ici, chaque fois qu'il se passerait, je ne sais pas moi, tomber en extase, père supérieur dirait un, hein, père prieur dirait, mais qu'est-ce que je dois faire, hein? Puis on voit très très bien, quand il y a un phénomène comme ça, il y en a pour et contre, hein, tout de suite. Dès qu'il y a du sensible qui intervient, on est pour ou contre. Alors le provincial a dit, bon, c'est très simple, montrez-moi ce crucifix. Le père supérieur a cherché ce crucifix, je l'ai vu du reste. Parce qu'il y a tout un témoignage derrière du provincial lui-même. Ce petit crucifix, très beau en bois, rien d'extraordinaire, je ne suis pas tombé en extase. j'ai admiré ce crucifix, il est beau, simple et très beau. Le provincial donc l'a regardé, et puis a dit maintenant à la supérieure, cherchez la religieuse. Qu'elle vienne. La religieuse est venue. Le provincial tenait le crucifix dans ses mains. La religieuse est tombée en extase et en est morte. Et la signature de Dieu. Et témoignage comme quoi. Elle n'est pas béatifiée du reste. C'est beau comme discernement. Vous voyez le point de vue ascétique. Comme c'est difficile, comme c'est délicat. L'ascèse, elle est humaine, question de volonté. On sait très bien que par un certain effort ascétique, quand on est surtout un noviciat, il y a un palier. Et qu'on pourrait assez facilement verser vers l'ascèse pour l'ascèse. Je le dis à certains d'entre vous, première expérience que j'ai eue au point de vue apostolique, c'était au Solchoir, j'étais jeune père maître à ce moment-là. Et le prieur n'étant pas là, j'étais donc supérieur du couvent. Arrive là quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'était un breton. Vous voyez, ma première expérience est breton. C'était un breton, ça je me souviens bien. Je lui demandais ce qu'il faisait dans le civil, puisqu'il était. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, je suis gardien de la paix. Gardien de la paix à Paris. Il me dit, je passe la journée ici, je voudrais passer la journée, je voudrais vous parler, parce que j'ai des problèmes profonds. Je dis, bon, très bien. Et son problème profond était celui-ci. Il l'a exprimé en gardien de la paix, hein, vous voyez, policier de la... à l'étoile. Je suis venu ici parce que je crois qu'il y a des moines qui peuvent, il y a des religieux qui peuvent donner la solution. Qu'est-ce qui est premier, l'ascèse ou la mystique? Textuellement. J'ai lu beaucoup de mystiques hindous. Et j'ai lu Jean. J'avais un très grand amour, en bon breton. Il aimait beaucoup Saint-Jean. À tel point, il m'a raconté après. Quand il a eu son fils, premier fils, il a crié dans l'oreille, hein. Tu t'appelleras Jean. C'est la manière dont il l'avait baptisé, vous comprenez. Il était croyant, mais il ne pratiquait plus. En bon breton venant à Paris, vous voyez, il avait quitté le contexte alors à Paris, mais il restait croyant. Un amour. J'ai trouvé ça très beau. Il m'a dit, je crois que dans l'Inde, il y a un primat de l'ascèse. Facilement. Alors à ce moment-là, on ne sait plus si la mystique est divine ou humaine. C'est assez c'est beau comme discernement d'un, je vous dis, d'un policier. Tandis que dans Jean, c'est net. La mystique est première et la 16 est seconde. Est-ce que c'est juste, ça? Me demandez comme ça. Est-ce que c'est juste? Alors on a discuté là-dessus, la 16 et la mystique, les rapports entre les deux. Mais la mystique est divine. La 16 est humaine. On peut aller très loin dans la 16. Et on peut arriver, au point de vue à 16, à faire une sorte de mystique naturelle. Une domination très très forte sur son corps par un jeûne. On peut très bien, et on sent très bien le moment où on pourrait très bien verser dans une espèce de mystique naturelle par une domination sur son corps. C'est une expérience assez curieuse. Mais on peut très bien, ça, on le sent très bien, qu'on peut arriver à poussant la 16 jusqu'au bout. Vous voyez, alors, c'est là où on voit très bien l'imitation matérielle de la croix. Et l'imitation matérielle de la croix peut conduire à une espèce de primat de la 16, qu'on considère ça plus que tout. Mais non, la croix, c'est pas ça. La croix, c'est l'obéissance au Père. C'est l'offrande intérieure de sa vie, l'obéissance au Père. C'est toujours l'obéissance qui est le critère en éthique chrétienne. Et je crois en éthique religieuse. Vous voyez, l'obéissance, c'est mystique. Et c'est ascétique. Et c'est dans l'obéissance que l'ascèse et la mystique se joignent. Et c'est pour ça que c'est toujours le critère de l'obéissance. Et l'obéissance réclame de bien comprendre qui est l'autorité. On va le voir. Oui, alors ça, la 16, c'est très important. Le jeûne fait partie de la 16. Hein. Ce n'est pas le seul point de vue. Il y a d'autres points de vue ascétiques. Il y a des points de vue ascétiques très très simples. Pas premier coup de la cloche, on arrête. Et alors, il y a dans l'histoire des saints des choses merveilleuses là-dessus. Dès le premier coup de la cloche, on arrête. Pour tout de suite aller à la chapelle, tout de suite aller au cours, tout de suite aller, toujours être là, présent. On ne continue pas. Alors on dit dans l'histoire des saints qu'un saint est arrêté comme ça, il était en train d'écrire un mot, plein milieu. Il part. Et l'ange a continué. C'est très beau ça. Je crois que ça peut très bien être vrai, très bien exister comme ça, c'est la 16. Une obéissance nette, une obéissance souple, une obéissance nette, peut-être ascétique. Une domination sur sa propre volonté, une domination sur tous nos appétits. Il peut y avoir un appétit spirituel, on réalise une œuvre, on est réalisé une œuvre, on l'aime bien. On désire aller jusqu'au bout. Alors la 16 coupe net, espèce de volonté, un volontarisme poussé à l'extrême, je dis, chez les stoïciens. Port-Royal. Pélage. C'est vieux ça. Pélage, au temps de Saint-Augustin, Pélage, ce moine irlandais, qui prétendait que l'homme se sauve par lui-même. J'ai entendu des gens très proches parlant de la vocation, en disant que la vocation, c'est une question de volonté. Ce n'est pas un appel de Dieu, c'est une question de volonté. Tout chrétien peut être un moine. Tout chrétien peut entrer dans la vie religieuse. Question de volonté, pas une question d'appel de Dieu, pas du tout. Oui, Pélage. Et c'est encore présent, ça. Dans certaines spiritualités c'est, qui sont un peu stoïciennes. Et vous voyez, le laxisme d'aujourd'hui, hein, le laxisme d'aujourd'hui qui est flagrant, pratiquement le sens moral disparaît, fait toujours un appel à un stoïcisme. Les temps de de baisse spirituelle, morale, où pratiquement il y a une licence complète des mœurs. Presque toujours fait un appel à une attitude ascétique, assez volontariste et assez stoïcienne. À Fribourg, il y avait quelqu'un qui m'avait fait une petite mémoire là-dessus, de licence, qui était assez intéressant, que la philosophie stoïcienne avait comme milieu et comme climat particulier un milieu de dégradation. Oui, chaque fois qu'on descend très bas, il y a une réaction. Toujours. Et c'est vrai, on doit être attentif à ne pas tomber dans l'autre extrême, vous voyez. Alors, une attitude ascétique qui n'est pas bonne, qui n'est pas chrétienne ni religieuse, qui vient très vite à fanatisme. Parce que le fanatisme religieux, c'est justement ça. On pousse à l'extrême sans mesure. Ce n'est plus l'amour. Le fanatisme religieux, c'est toujours un certain stoïcisme. Un primat volontariste, personnel ou communautaire. Parce que le fanatisme religieux peut exister sous des plans différents. Et analyser le fanatisme religieux, c'est intéressant, parce qu'on a des exemples aujourd'hui de fanatisme religieux. Cet exemple de fanatisme religieux vient justement d'un laxisme. Il y a un laxisme énorme, alors on prône le fanatisme religieux dans toutes les dimensions. C'est la réaction, et c'est une réaction stoïcienne d'un primat du volontaire, un primat de l'ascèse, la domination de soi. Donc, c'est pas commode, vous voyez, la question du jeûne et de l'ascèse. Il faut une certaine ascèse. Il n'y a pas d'éthique religieuse sans ascèse. Ça, c'est impossible. C'est justement, c'est parce que l'amour est premier. Si l'amour n'était pas premier, cette parole de Jésus n'existerait pas. Pour un stoïcien, ça n'a pas de sens. Si je mets le primat sur la scène, ça n'a pas de sens. Si je mets le primat sur l'amour, très bien, quand l'époux est là. Oui, dans l'oraison, vous êtes avec Jésus, mais ne pensez pas à votre volonté ascétique. Non, c'est mieux de me mettre à genoux là où il y a des petits clous, n'est-ce pas, que j'ai mis en dessous, hein, personne ne l'a vu, mais vous n'avez qu'à regarder ma place, il y a des petits clous. Et le prieur à côté en a aussi, n'est-ce pas. Et ils sont très très bien cachés, parce qu'il y a un tapis. Et un tapis est fait exprès pour ça. Qu'on met des petits clous en dessous et personne ne le voit. Et chaque fois que je me mets à genoux, ouh, c'est des petits clous. Et j'arrive à rester une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure sur des petits clous. Mais c'est difficile, je dis. Et toute leur raison, c'est se tenir sur des petits clous. Oui, alors à ce moment-là, il n'y a plus un seul moment où on aime. On est dans cet effort de se tenir sur des petits clous. Personne ne le voit, oui. Il n'y avait pas jamais pensé. Mais pourtant, c'est ça. Vous voyez, alors, le stoïcisme qui passe avant. Port-Royal. Et ça renaît, ces choses-là. Faut bien le voir, ça renaît. Ça prend des formes diverses. Mais dès qu'il y a un laxisme, il y a toujours après une réaction. C'est connu, ça. Et alors, il faut qu'en éthique religieuse, on comprenne que l'effort ascétique est toujours ordonné à l'adoration et à la charité fraternelle. L'effort ascétique est ordonné à un amour du cœur virginal. Parce que si l'effort ascétique passe avant, vous comprenez que c'est pas aimer Dieu. C'est pas adorer Dieu qui est une forme d'amour, mais c'est soi-même. On ne pense qu'à soi. Et on ne pense qu'à la domination de soi-même. et parce qu'on n'est pas arrivé à se dominer, c'est catastrophique. Alors que si on aimait plus, je ne suis pas dominé, mais c'est rien. Je pleure, mais je le sais. Je veux aimer. Mais ce n'est pas sur moi-même que je pleure. Marie de Magdala, elle pleurait au sépulcre parce qu'elle n'avait pas été la première auprès de Jésus. C'était mélangé, hein. C'était pas uniquement ascétique, mais il y avait quand même un tout petit peu de ça. On veut être premier. Et quand on veut toujours être premier, attention, l'amour ne cherche pas à être premier. L'amour cherche l'amour. La pureté de l'amour, c'est de rechercher avec l'amour. Mais ça importe peu qu'il y en ait d'autres qui aiment. Tant mieux. Tant mieux. Tandis qu'être premier, c'est toujours un tout petit peu. La 16, c'est nous. Je vais donner cet exemple que Brémond donnait, hein, à propos des cloches. Cette sainte personne qui offre les cloches à la paroisse. Et elle dit au curé, surtout, surtout, ne dites pas que c'est moi. Dites que c'est un don. Mais monsieur le curé, je vous en supplie, mettez mon nom à l'intérieur des cloches pour que chaque fois que le tympan tape, il tape sur mon nom. Vous voyez, c'était très subtil, ça. Et ça, c'est pas l'amour dans toute sa gratuité. L'amour gratuit, qui est l'amour, réclame ce dépassement. Sûrement. Alors, on ne peut pas juger l'extérieur. Il y a des saints qui pleuraient sur leurs péchés parce qu'ils devaient pleurer, le Saint-Esprit le demandait. Saint Ignace a beaucoup pleuré sur ses péchés. Et à un moment donné, l'Esprit-Saint réclame de dépasser. Oui, c'est la fameuse distinction, vous savez, des commençants, des parfaits, les commençants, les progressants et les parfaits. Et saint Thomas donne. Alors ça existe à tous les moments de notre vie. Hein. On est toujours des commençants, on est toujours des ceux qui progressent, et on est toujours des parfaits aussi. Mais il y a une note dominante. Les commençants, c'est ceux qui pleurent sur leurs péchés. Les croissants, c'est ceux qui mettent tout l'effort d'espérance pour croître. Et les parfaits, c'est ceux qui vivent de l'unité. Alors on comprend très bien ça. Et au fond, c'est là, en éthique chrétienne, qu'on peut comprendre l'équilibre qu'il y a. Et en éthique religieuse, on retrouve des choses semblables. Hein, puisque la faute existe, et donc il y a nécessairement un repentir d'avoir été orgueilleux. De ne pas avoir été assez docile à la parole de Dieu, à la volonté du Père. Et la 16... Et là, pour nous apprendre à être parfaitement docile à la volonté du Père. Mais ce n'est pas pour faire de la 16 et se dominer, c'est pour être docile à la volonté du Père. Celui qui fait des efforts uniquement pour se dominer, il y a un primat de la 16. Il y a un primat stoïcien. C'est pas commode, hein. Vous savez, le passage des deux, c'est... De l'extérieur, on ne peut pas juger. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger l'extérieur. On peut juger de l'intérieur. Et de l'intérieur, ce n'est pas toujours commode. Dans tout effort ascétique, alors, la vie religieuse réclame un effort ascétique. Dans tout effort ascétique, dans toute domination de soi-même, il y a une ascèse qui joue. Mais il faut que cette ascèse soit dépassée par un plus grand amour. On offre la victime en immolation d'amour. Et on n'est pas là pour contempler la victime. La mettre en vitrine. Regardez-moi, je suis la plus belle victime qui soit. Bon, alors voyez bien, le jeûne. Continuons d'entrer dans ce que représente l'obéissance. Dans l'éthique religieuse. Je vous ai dit, dans l'éthique religieuse, la vertu d'obéissance apparaît. Alors que je crois que dans l'éthique proprement humaine, commandée par le point de vue de l'amour d'amitié, l'obéissance ne va exister qu'au niveau famille et donc au niveau politique, au niveau de l'éducation. Et au niveau politique, l'obéissance est peu de choses. C'est au niveau de la famille, puis c'est au niveau des lois. C'est peu de choses, c'est pas énorme. C'est pour ça qu'Aristote dira, vous savez bien, pour l'obéissance, il ne faut jamais oublier cette phrase d'Aristote, qu'on ne peut pas répéter aujourd'hui. On la répète en disant « c'est d'Aristote ». Et donc c'est du temps d'Aristote. Aristote disait « l'obéissance, c'est pour les enfants et les femmes ». Et l'obéissance, c'est pour les enfants, les femmes et les esclaves. Il y avait trois types d'obéissance différentes. Aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ça. Et ce n'est pas tout à fait juste, c'est bien évident. On dirait que l'obéissance, c'est pour les enfants, et l'obéissance aux lois, c'est pour les citoyens, et que l'obéissance dans le travail, c'est pour tous ceux qui ont accepté un contrat de travail. Et l'obéissance, donc ça c'est au point de vue de l'obéissance humaine. Dès qu'on entre dans l'éthique religieuse, l'obéissance prend une dimension nouvelle. Et dès qu'on entre en éthique chrétienne, l'obéissance prend une dimension encore nouvelle. Autrement dit, le crescendo entre l'éthique humaine, l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne, c'est l'obéissance qui donne le crescendo. Très étonnant. Elle existe en éthique humaine au niveau politique, au niveau familial. Ça, on ne peut pas nier. Il n'y a pas d'éducation sans l'obéissance. Impossible. Et l'enfant qui, dès le point de départ, n'obéirait pas et n'accepterait pas l'obéissance, ne pourrait pas être éduqué. C'est impossible autrement. L'obéissance fait appel à l'autorité. Vous avez donc au niveau éthique humaine, l'autorité des parents et l'autorité du chef d'État. Au niveau éthique humaine, et voyez que c'est tout de suite au niveau politique, au niveau familial et politique, au niveau purement humain, l'amitié est au-delà de l'autorité. Entre amis, on ne peut jamais dire qu'il y a une autorité. C'est pour ça qu'entre amis, au sens strict, il n'y a pas d'obéissance. Il y a une très grande docilité, une très grande unité, une très grande harmonie. Mais on n'obéit pas au sens strict à un ami. On coopère. Alors la coopération va impliquer une certaine obéissance, si vous voulez. On reconnaît librement que l'un passe avant l'autre. C'est toute la grosse question de savoir si au point de vue purement humain, il y a obéissance de l'épouse à l'égard de l'époux. Une question très très délicate. Si entre l'époux et l'épouse, c'est l'amour d'amitié qui domine, entre époux et épouse, il n'y a donc pas au sens strict autorité. Au sens strict, je crois. Oui, ça c'est une question, mettez au moins un point d'interrogation dans ça. On a tracé ça à Rimont cette année-ci, parce qu'il y avait des questions très délicates qui s'étaient posées, et je comprends très bien. Et je crois que c'est bon, on l'a pas assez vu ça. Qu'au niveau amour d'amitié, il n'y a pas d'autorité. l'ami comme tel n'exerce pas l'autorité. Au contraire, tout l'effort de l'ami, c'est toujours de laisser l'ami passer devant et de savoir ce qui lui plaît. C'est la complaisance à l'ami. Ce n'est pas au sens strict d'autorité. Au niveau, alors, proprement éthique religieuse. Alors, à ce moment-là, une certaine autorité va apparaître. Et une certaine obéissance apparaît. Comme éthique religieuse. Pas seulement au plan politique, mais au plan personnel. Et en éthique chrétienne, l'obéissance peut tout prendre. Il y a un esprit d'obéissance, comme il y a un esprit de virginité, comme il y a un esprit de pauvreté. Et l'esprit d'obéissance va se concrétiser dans la vie religieuse, où l'obéissance prend tout. On veut que, de fait, la vertu d'obéissance prenne tout, soit plus quelque chose de particulier, pour entrer davantage dans l'imitation du Christ, qui était obéissant jusqu'à la mort. Oui, donc c'est l'imitation du Christ qui permet ça, en éthique chrétienne. En éthique religieuse, l'obéissance apparaît, c'est ça qu'on va essayer de regarder. Pourquoi ? Parce qu'il y a le point de vue de la création. Notre âme est créée par Dieu. Et Dieu, comme Père, a cette autorité paternelle sur nous. Et cette autorité paternelle va réclamer une obéissance. Et cette obéissance apparaît en premier lieu dans le point de vue religieux de l'adoration. C'est le commandement fondamental de Dieu. Dans une perspective d'éthique religieuse, il y a un jugement de sagesse qui apparaît. On juge tout dans la lumière de la sagesse du Créateur. Et dans la sagesse du Créateur, Dieu justement réclame de nous cette attitude religieuse, cette adoration qui doit faire partie de notre vie et où on reconnaît dans l'adoration l'autorité immédiate.